Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 18 mai, il est 8h30. La semaine dernière, il pensait passer une semaine peinard sans son collègue pour un boucané. Elle s'est ratée, il est au fond de son lit. Il est donc de retour en même temps que moi, Corto, salut.
Salut, salut, et bah oui, quel enfer, une vieille crève toute la semaine, cloître à la maison.
Alors, tu préfères être malade ou supporter tes collègues?
Je crois que je préfère supporter mes collègues finalement.
Avec le sourire, avec plaisir, évidemment. Au programme de cette matinale, nous sommes avec Pierre Chantre, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chargé de développement marketing 1048 pour les pompiers et vous avez lancé depuis lundi une enquête à l'attention du grand public pour, disons, échanger avec les Lozériens, les Ariennes sur les sapeurs-pompiers, un peu se connaître un peu.
Tout à fait, pour pouvoir échanger avec la population, pour connaître un peu leurs attentes des sapeurs-pompiers, du recrutement notamment pour pouvoir par la suite peut-être en intéresser certains pour entrer sapeurs-pompiers volontaires. Et puis pour connaître aussi leurs peurs et les contraintes qu'ils peuvent connaître en rentrant sapeur-pompier volontaire et faire en sorte que ça change.
On va en parler dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous serons par téléphone avec Guillaume Brouillette qui est, je ne sais plus ce qu'il est, les coordinateurs réseau, voilà, pour le festival Doc Seven, qui commence à la salle le mercredi 25 mai avec une entrée en matière à Florac le 24 mai à la Genette. Il y aura de la musique, comme d'hab, aujourd'hui un peu de jazz et on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Il fait chaud, tout le monde l'a remarqué, des records de température en ce mois de mai, et alors que je m'étonne de voir certains médias s'en féliciter et filmer quelques touristes contents d'être à la plage. Est-ce normal? Eh ben, sans surprise, non. Les vagues de chaleur qui se produisaient auparavant une fois tous les 50 ans se produisent désormais tous les 10 ans et vont se produire de plus en plus tôt et de plus en plus souvent. Selon les chercheurs du GIEC, les effets du réchauffement climatique se font déjà sentir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en présentant le rapport, a parlé d'un code rouge pour l'humanité. L'organe des Nations Unies chargé du climat a fait la lumière sur différents scénarios. Sur base de ceci, le GIEC prévoit que la température sur Terre peut augmenter selon les régions de 1 à 5,7 degrés dans les 10 prochaines années. En Inde ou en Pakistan, plus de 50 degrés ont déjà été relevés il y a quelques jours. Et ici en France, nous n'avons jamais connu un mois de mai aussi chaud. Ça fait un peu flipper, mais gageons pour que la Première Ministre et le gouvernement prennent des décisions drastiques puisque ce quinquennat a été placé sous le signe de l'écologie. Mais enfin, comme d'hab, pouvoir d'achat ou réchauffement climatique, nous le saurons très vite et il y a plutôt intérêt, ça chauffe. On parle avec vous, Monsieur Chantre, de l'enquête que vous avez lancée depuis lundi. On écoute d'abord Chet Baker, Chasing the Bird.
Thank you.
Chet Baker, Chasing the Bird, ce n'est pas parce que je suis trompettiste que j'ai mis la trompette, il y aura du saxophone tout à l'heure, de retour en plateau avec monsieur Pierre Chantre, pompier, merci d'être avec nous. Le SDIS 48, service départemental incendie et secours Lozère, lance une grande enquête. Cette enquête, elle est partie du fait que vous avez un énorme souci et que vous n'arrivez plus à recruter de pompiers, sachant qu'en Lozère, vous êtes 100% de pompiers volontaires, c'est ça ?
C'est ça. Alors pour donner quelques chiffres, la Lozère, donc c'est environ 750 sapeurs-pompiers, 100% volontaires, donc aucun professionnel, tous ont une famille... À côté, on a un emploi ou sont étudiants. C'est 29 centres de secours répartis sur l'ensemble de départements. Et donc, entre 2020 et 2021, ça a été une explosion, on va dire, plus 15% d'intervention. Donc, ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, par rapport à ça, et par rapport au départ aussi, à la retraite, et puis aux autres raisons, à contrario, on a énormément de mal à recruter et à remplacer les pompiers qui partent, et à recruter tout simplement pour soutenir les pompiers déjà qui sont sapeurs-pompiers volontaires dans la hausse des interventions et dans la demande de secours de la population de plus en plus importante.
Est-ce que c'est un problème qui est post-Covid ou alors c'est déjà un problème que vous connaissez depuis plusieurs années ?
Alors c'est un problème récurrent, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que chaque année, les pompiers sur le territoire national, autant en Lozère que dans les autres départements, essayent de recruter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme sur le fait que nous n'arrivons plus à recruter. Donc aujourd'hui, on ne recrute soit pas assez, soit pas du tout. Et c'est un problème récurrent, tout à fait. Mais voilà, aujourd'hui, il faut mettre la ligne rouge et il faut dire, voilà, aujourd'hui, on a besoin de la population, on a besoin de son avis pour connaître les raisons de pourquoi on n'arrive plus à recruter, pourquoi plus personne ne se présente en tant que sapeur-pompier volontaire au recrutement. Donc voilà, on a besoin de la population parce qu'aujourd'hui, voilà, on est sur la bordure de la ligne rouge.
La question peut paraître simple, mais c'est quoi être sapeur-pompier volontaire ?
Alors être sapeur-pompier volontaire, c'est un engagement. On est d'accord, mais c'est participer à une grande action et c'est être dans une grande famille. C'est donner peut-être quelques heures dans sa journée de disponibilité pour la population, pardon. C'est peut-être passer toute sa journée aussi, étudiant comme moi. Mmh. C'est vrai que des fois on passe sa journée en caserne, voilà, puisqu'il y a les copains pour être disponible pour la population. Mais voilà, ça peut être donner que quelques heures, ça peut être donner toute sa journée, c'est participer à une grande famille, c'est porter secours aux autres personnes, et c'est donner un sens à sa vie aussi, puisque pour beaucoup, pour même presque tout le monde, j'ai envie de dire, je ne veux pas parler pour l'ensemble des pompiers, mais ça change la vie, on voit d'autres choses, on voit, c'est très dynamique, ça, on n'a jamais la même intervention qui arrive, mais oui, c'est donner un sens à sa vie, et c'est très, très réjouissant de pouvoir aider les autres.
On reviendra tout à l'heure à ce que c'est l'essence même de l'engagement. Alors, je l'ai faite, cette enquête. Ça prend 10 minutes.
Merci.
Est-ce que vous pouvez nous dire où on la trouve et comment ça se présente ?
Très bien. Alors, l'enquête, oui, elle sera disponible notamment dans les médias, que ce soit les journaux et puis j'espère vous les radios qui diffuseront le relais.
On la mettra sur notre site en fin d'émission.
C'est très gentil. mais sinon, elle sera disponible tout simplement et tout au long de l'enquête sur le Facebook de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Lozère, donc @UDSP48 sur Facebook, sur le Twitter aussi des sapeurs-pompiers de la Lozère, donc SDIS-Lozère sur Twitter, et sur le site de l'Union départementale, donc UDSP48.fr.
Il y a aussi quelque chose qui est super important dans cette enquête et pourquoi vous la faites, c'est d'abolir certains clichés qu'on peut avoir.
Tout à fait.
Par exemple, je sais pas, on a 45 ans, on peut quand même s'engager.
C'est ça, tout à fait. Alors on peut rentrer chez sapeur-pompier en tant que volontaire de 16 à 55 ans. Donc voilà, les personnes, j'ai déjà regardé un peu les réponses au sondage, et c'est vrai que voilà, des personnes qui disent dans les 45 ans, je pensais ne pas avoir l'âge, c'est faux, aujourd'hui jusqu'à 55 ans on recrute, une personne qui a 55 ans, elle est tout à fait apte à aller porter secours, elle est tout à fait capable d'aider la population sur du secours à personne et même de l'incendie. Donc oui, il faut abolir les clichés, on est là pour ça aussi, c'est connaître la vision de la population par rapport aux sapeurs-pompiers et leur dire non en fait, c'est pas ça être sapeur-pompier, notamment aussi l'incendie, beaucoup pensent qu'on fait que du feu et certaines personnes n'ont pas envie de faire de la lutte contre l'incendie, et ça leur dire non, l'incendie ça représente que 6% de nos interventions, le reste c'est du secours à personne et vous êtes très aptes à le faire. Peu importe votre physique, votre âge, votre sexe ou votre
condition
catégorie
physique,
socio-professionnelle, etc.
Est-ce qu'il faut quand même un peu de condition physique ou
Alors bien sûr, il en faut un peu. Maintenant, de là à dire qu'il faut être un champion olympique pour entrer sapeur-pompier volontaire, pas du tout. Moi-même, quand je suis rentré, je ne vais pas me vanter d'avoir été le meilleur. Mais en revanche, c'est surtout une question de volonté. On peut rentrer sapeur-pompier volontaire sans avoir forcément le physique d'un champion olympique, d'un nageur ou de Schwarzenegger. Le physique peut arriver aussi après, puisqu'on fait du sport, on s'entraîne, et ça peut venir après. Mais l'idée, c'est aussi de dire aux gens qui pensent qu'ils n'ont pas le physique, venez, vous n'avez rien à perdre, au contraire. Peut-être que chez certaines personnes, elles voudraient rentrer pompier volontaire, ils disent, j'ai pas le physique. C'est dire, venez, essayez, et on prend tout le monde.
On a de l'espoir, Corto, on a de l'espoir.
moi peut-être, mais toi, je sais
pas. Pour en venir, pour être sérieux, l'engagement, est-ce que finalement, ce ne sont pas les craintes? Alors, on parlait d'incendie tout à l'heure, mais aussi de voir des choses horribles. Hein, je pense aux accidents de voiture, par exemple. C'est quand même, ça peut quand même être impressionnant et refroidir certaines personnes à s'engager.
Tout à fait. Alors, le but étant de connaître ces craintes et ces freins de la population à venir s'engager. Pour donner des arguments, justement, notamment l'incendie, dire que vous n'êtes pas obligé de faire l'incendie, il y a une filière qui va être mise en place, je parle de filière avec des guillemets, spécialement pour le secours à personne. Les gens qui voudront faire que du secours à personne pourront. Bien sûr, il y a des choses, on ne pourra pas y faire grand-chose. La crainte du sang, j'ai regardé certaines réponses, comme je disais, il y a des gens qui disent « j'ai peur du sang ». Malheureusement, nous, on ne peut pas apporter d'arguments concrets. C'est quelque chose de personnel, on respecte aussi. On n'est pas là pour forcer les gens, on est là pour comprendre leurs craintes et les informer, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un manque d'informations. Et on est là pour les informer, leur dire, vous pensiez ça, ça vous freinait, par exemple, pour ceux qui travaillent. Vous pensiez que vous ne pouviez pas faire sapeur-pompier volontaire parce que vous travaillez, et leur donner une réponse. Aujourd'hui, il existe des conventions SDIS employeurs qui permettent de trouver une corrélation entre votre travail et la disponibilité dans votre journée. Mais il est vrai qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas changer, malheureusement.
Il y a des avantages à être sapeur-pompier volontaire. Dans la documentation que vous m'avez envoyée pour préparer cette interview, vous parliez notamment de la loi Matras. Qu'est-ce donc ?
Tout à fait. Alors, la loi Matras de 2021, c'est une loi qui est faite pour valoriser et stabiliser un peu l'engagement de sapeur-pompier volontaire, puisque comme je disais, il y a des pompiers qui partent, il y a des pompiers qui arrivent. Malheureusement, il y a plus de pompiers qui partent qui n'y en arrive. Donc la loi Matras, je ne pourrais pas vous la dire en détail alinéa par alinéa, mais c'est une loi qui vise à valoriser et à stabiliser l'engagement et assurer un secours sur l'ensemble du territoire, une égalité des secours pour tout le monde, autant en Lozère, à Saint-Étienne-Vallée-Française qu'à Mende, mais aussi qui vise à valoriser ce volontariat par notamment les indemnités et par d'autres valorisations que financière, notamment les conventions.
les conventions
SDIS employeurs, mais c'est une loi qui vise à améliorer le volontariat sur l'ensemble de la France, enfin le secours plutôt, que tout le monde ait sa chance d'avoir le même accès au secours, mais en même temps qui vise à valoriser ceux qui s'engagent au service des autres.
J'ai vu aussi que par exemple on pouvait éventuellement passer son permis poids lourd chez les pompiers.
Tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'engagement de la part des communautés de communes, du département, pour aider les sapeurs-pompiers. Et comme je disais, la valorisation passe par une indemnisation, mais par des
avantages.
Oui, des avantages, je cherche le mot, merci. Des avantages, et notamment certains permis. Il faut des conducteurs poids lourds chez les sapeurs-pompiers pour conduire les camions. Donc on peut passer le permis poids lourd qui est valable dans le civil aussi. Il y a plusieurs avantages. L'aide à l'embauche aussi, pour ceux qui recherchent du travail. Le SDIS peut les aider à trouver des employeurs. Il y a plein d'avantages à devenir sapeur-pompier. Ils ne sont pas là pour remplacer le temps qu'on donne, mais il est là pour dire, vous ne faites pas ça gratuitement, vous donnez du temps pour les autres, on essaye quand même de vous aider, de vous avantager, de vous donner quelque chose pour vous remercier.
Alors, je veux être sapeur-pompier, concrètement, je ne sais pas comment faire, concrètement, comment je dois faire ?
Alors, pour ce faire, il faut se rendre dans sa caserne la plus proche. Donc comme je disais, il y a 29 centres de secours en Lozère, il y a trois compagnies, et dans chaque compagnie, il y a les centres et il y a les secteurs, donc deux secteurs si je ne me trompe pas par compagnie, et dans chaque secteur il y a plusieurs centres de secours, donc ne vous inquiétez pas, il y a un centre de secours près de chez vous. Il faut se rendre donc dans le centre de secours où la démarche sera expliquée. Très généralement c'est simple, une lettre de motivation, voilà, on passe devant un comité de caserne qui valide ou non, mais très souvent c'est oui bien sûr, qui valide le fait que vous vouliez rentrer sapeur-pompier volontaire, et en parallèle de ça, une commission départementale, puisque c'est géré, les pompiers sont gérés par le département, une commission départementale qui valide votre recrutement. Mais pour tout renseignement, et si vous avez des questions, des interrogations, il ne faut pas hésiter à se rendre dans le centre de secours le plus proche, et voilà, demander au chef de caserne par rapport au recrutement.
On parlera juste après de comment ça se passe après une fois que j'ai été recruté, mais on va parler aussi de, puisqu'on parle de moyens humains, c'est le plus gros souci que vous ayez, mais quid du matériel en fait. Parce que les casernes lausériennes sont équipées comme il se doit, sachant que la DSAVA, la population n'est pas immense, mais en période touristique, elle peut doubler, tripler, voire dans certaines zones plus que ça. Bref, est-ce que matériellement ça tient la route ?
Alors après, on va dire que moi, je ne suis pas là pour faire un état des lieux au niveau opérationnel. Mmh. Je suis vraiment là pour informer la population. Maintenant, de ce que je sais, oui, le matériel, on en a. Bien sûr, bah, comme de partout, le matériel évolue, la population évolue, les demandes évoluent, mmh. les demandes de secours. Donc il y aura toujours une façon de voir les choses au niveau matériel. Maintenant, aujourd'hui, moi, pourquoi on m'a demandé d'être ici ? C'est surtout que oui, on a le matériel, on a un véhicule qui est prêt au départ. Mais très généralement, on n'a pas le personnel pour le remplir.
Donc, une fois que j'ai été recruté, est-ce qu'il y a une formation ? Comment ça se passe ?
Tout à fait. Alors, une fois que vous êtes recruté, eh bien, vous allez avoir la formation initiale, donc composée d'incendie, de secours à personne, d'opérations diverses. Donc, vous allez être formé, vous allez être accompagné pour avoir les acquis des sapeurs-pompiers. Donc, c'est des compétences qui sont valables de partout. Je pense surtout au secours à personne. En entreprise, un travailleur qui a passé sa formation initiale avec le secours à personne pourra venir en aide à ses collègues. Je sais pas, par exemple, je pense un exemple tout bête au BTP qui travaille sous les fortes chaleurs, un malaise, quelque chose qui arrive comme ça. Bah voilà, un employé qui a été formé, qui est sapeur-pompier volontaire, pourra venir en aide à son collègue. Donc voilà, c'est des compétences qu'on acquiert par les formations, par un maintien aussi tout au long de l'année de ces compétences, et qui sont valables et qui sont très très précieuses. Dans les moments du quotidien, au travail, etc.
Me voilà complètement aguerri et pompier. Une fois engagé, comment ça se passe ? Est-ce que j'ai des tours de garde ? Est-ce que je peux être appelé à tout moment ? Comment ça se passe au niveau de l'emploi du temps ? Sachant que je donne beaucoup de temps ici à la radio.
Là, on vous aime bien, c'est pour ça. Alors, chaque caserne a un peu son fonctionnement en Lozère. Maintenant, oui, alors en journée, généralement, ce qui va être fait, c'est que je vais prendre l'exemple de Mende, puisque je suis basé là-bas. Par exemple, en journée, c'est un appel général, donc tous les sapeurs-pompiers sont sonnés. Et je reviendrai après sur ce format, on va dire, d'engagement. Mm-hmm. Et puis après, la nuit et les week-ends. C'est une équipe, donc l'ensemble du personnel est divisé en équipes, et c'est une équipe qu'on appelle de garde qui va prendre son astreinte, donc à partir de 20h jusqu'à 7h le matin en semaine, qui restera chez soi, mais il n'y aura que eux qui seront appelés en premier appel. Et le week-end, c'est pareil, le dimanche matin, de 8h à midi, une garde en caserne, donc présence en caserne. C'est la seule présence en caserne requise durant la semaine. Sinon, le reste du temps, on est disponible au travail. Enfin, on est chez soi ou au travail, pardon, et on est disponible et on peut être appelé de là-bas. Mmh. Et là où je voulais en revenir, c'est que moi, je vois bien, et c'est d'autant plus pour ça que je mets de la volonté pour essayer d'informer la population et les inciter, leur donner envie de rentrer sapeur-pompier volontaire, c'est qu'en semaine, voilà, l'appel est général. Donc tout le monde est sonné, et pourtant malheureusement il y a très peu de personnes qui sont disponibles, parce que voilà, il y a des gens qui travaillent, il y a des étudiants qui ne sont pas, peut-être pas en Lozère, qui sont partis, il y a des parents qui ont leurs enfants qui peuvent pas les laisser comme ça. Donc voilà, on a besoin de cette population. Comme je disais, ça peut être que 2 heures en journée, donner que 2 heures de disponibilité en journée, mais 2 heures ça sera déjà assez pour sauver une vie. Mmh. Et voilà, donc Comme je disais, le personnel manque vraiment. Et pour revenir à la question, ça dépend la caserne. Il y a des casernes qui marchent un peu différemment, mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne.
À titre personnel, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être pompier? Quand est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est venu quand vous étiez enfant? Est-ce que c'est venu plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Alors ça, c'est une question de recrutement chez les sapeurs-pompiers professionnels qu'on pose, que j'ai l'impression d'y être.
Non, pardonnez-moi.
Je pourrais répondre un peu avec un peu moins de pression. Non, mais c'est vrai que moi, pour tout vous dire, la chose que j'avais pas osé dire à l'entretien, c'est que je ne sais pas d'où c'est venu. Je me rappelle juste, voilà, petite anecdote, c'est que le premier cadeau, le premier souvenir que j'ai du premier cadeau, c'était un camion de pompier. Alors peut-être que c'est venu de là, je sais pas. Mais c'est vrai que je savais pas trop. Et là je vais parler pour les plus jeunes. C'est pareil, généralement, on a tous eu envie de faire plein de métiers. Voilà, on était admiratifs des uniformes, aux gendarmes, militaires, médecins, pompiers. On a tous hésité en étant petits. Mmh. Et puis pour les plus jeunes, aujourd'hui, il y a les jeunes sapeurs-pompiers qui existent. Et moi, c'est ce qui m'a aidé. Voilà, je savais que potentiellement l'activité de sapeur-pompier volontaire pouvait me plaire. Donc j'ai essayé les jeunes sapeurs-pompiers, j'y suis resté mes 4 années. Et au fin de compte, je me suis engagé pour être sapeur-pompier volontaire. Donc...
Vous allez peut-être abolir une idée, peut-être une fausse idée que j'ai, puisque vous parliez de pompiers professionnels pour le coup. Je pensais qu'il n'y avait que les pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille qui étaient pros.
Alors non, alors du coup la Lozère n'est pas concernée puisque l'ensemble des sapeurs-pompiers qui interviennent sont volontaires pour le rappeler. Uh-huh. Les pompiers de Paris et de Marseille, eux sont militaires, donc ah oui, ils dépendent d'accord. directement du ministère de la Défense. Uh-huh. Ou de l'Intérieur. Et
de la Défense, je pense.
De la Défense, oui.
Ouais, c'est possible.
Parce qu'après, l'unité, oui. Je vais dire le mot plus simple. Il ouais. y a la sécurité civile aussi, les pompiers de la sécurité civile, uh-huh. Qui eux aussi sont militaires. Et sur l'ensemble de la France, non, il y a des pompiers professionnels, donc des pompiers professionnels civils, en complément, c'est très mauvais mot, mais avec les sapeurs-pompiers volontaires, ils forment les sapeurs-pompiers entre guillemets civils, mm-hmm. sauf que à la différence des sapeurs-pompiers volontaires qui ont un métier à côté, eux c'est leur vrai métier, ils sont présents en caserne et voilà, ils vont comme vous et moi au travail, mais ils vont avec une tenue de sapeur-pompier.
Et donc vous étudiez pour être sapeur-pompier professionnel, c'est ça?
Alors moi oui, enfin c'est pas étudié pour, mais dans l'idée, on va dire un peu plus personnellement, oui, j'aimerais bien passer le concours.
Mm. Avant de se quitter, de redire un mot sur l'enquête que vous faites, je voudrais vous faire écouter un petit son. Il s'appelle Tom, il est à l'école primaire de Florac. Il participe à une émission qui s'appelle De l'Odyssée des enfants et il nous parle des pompiers, c'était il n'y a pas très longtemps.
Tom, tu nous parles des pompiers ? Les pompiers. Les pompiers sont les soldats du feu et des blessés. Ils sauvent des vies.
Toujours présents à tous les temps, les sapeurs pompiers dans le vent.
Des fois, dans mes cauchemars, il y a du feu partout et plein de blessés. Parfois, des gens appellent pour dire n'importe quoi et faire semblant d'avoir un feu. Il ne faut pas appeler pour rien. Sans les pompiers, on ne pourrait pas éteindre les incendies. Merci les pompiers.
De quoi vous faire espérer ?
Tout à fait, tout à fait. C'est beau. J'aime bien cette petite voix qui parle de l'envie de devenir sapeur-pompier. Maintenant, je vais juste reprendre un mot qu'il a dit. Les pompiers sont les soldats du feu. C'est vrai. Mais voilà, j'aime à rappeler et je suis là pour rappeler. C'est le but de ma présence. Rappeler que soldats du feu, oui. Mais surtout soldats de la vie, si je puis dire, puisque voilà, pour rappeler, c'est 84% de l'ensemble de nos interventions. Donc chaque intervention, tous les ans, 84% concerne le secours à personne. Donc oui, on voit des flammes, oui, on appelle les sapeurs-pompiers pour combattre le feu, c'est vrai. Mais il faut rappeler que voilà, sur 80% de nos départs, à chaque fois que ça va sonner, il y a énormément de possibilités pour que ce soit du secours à personne et non pas de l'incendie.
Auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à aller remplir l'enquête dans un premier temps pour aider les pompiers à comprendre, entre autres, quels sont les freins qui retiennent à l'engagement, comment ils doivent communiquer, quels leviers doivent-ils faire fonctionner pour qu'on ne perde pas ces personnes extraordinaires qui œuvrent pour la population. Pour nous, merci beaucoup, Monsieur Chantre.
Merci à vous.
L'enquête est disponible sur votre site udsp48.fr, sur votre Facebook ou autre Twitter. Je mets les liens sur notre site dans un instant. Allez, on part. Oui, avec plaisir.
Je voulais juste rajouter quelque chose pour les personnes qui seraient intéressées pour en découvrir un peu plus, on va dire, des sapeurs-pompiers à court terme. Il y a le congrès départemental le 22 juin à Villefort, à la Halle des Sports. Donc voilà, vous pourrez discuter avec des pompiers, vous pourrez rencontrer des pompiers, discuter du matériel et de l'engagement surtout. Donc voilà, pour les personnes qui voudraient apprendre ce que c'est qu'être sapeur-pompier, on va dire plus rapidement possible.
On vous le redira tout ça, auditeurs, auditrices. Merci beaucoup. Merci. On part à la salle dans un instant pour le festival Doc Seven. On écoute d'ailleurs, tiens, un saxophoniste, Charlie Parker, dit The Bird. Le morceau, c'est Yardbird. Le Festival international du documentaire Doc Seven à la salle arrive à grands pas. Ça se passe du 25 au 28 mai prochain. Et pour en parler, nous sommes avec Guillaume Brouillet. Bonjour.
Oui, bonjour. Eh bien, merci de l'invitation. Donc moi, je suis coordinateur du réseau Doc Seven, mais surtout du Focus Québec, avec Monsieur Richard Brouillette, qui est notre animateur du Focus côté québécois, qui est donc lui-même réalisateur et producteur. Et co-programmateur de ce Focus.
Alors, on va parler de tout ça, un peu de ce qu'est coordinateur réseau, on va découvrir. Avant toute chose, le festival est porté par l'asso Champ contre Champ. Alors, avec une belle équipe et une histoire de plus de 20 ans, est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique de cet asso?
Oui, alors l'association Champ contre Champ, elle a été créée au départ par Henri Delatour, qui est donc l'actuel maire de la salle, mais qui à l'époque n'habitait pas encore à la salle. Il était réalisateur, il est toujours d'ailleurs, de documentaires. Et Henri, donc, s'était dit, mais je vais tous les ans à Lussas, en Ardèche, aux états généraux du documentaire, et je me dis, mais pourquoi on pourrait pas créer un festival de documentaire, un petit peu comme ça, dans la nature, en été, et donc il s'est dit, ben voyons ce qu'on peut faire dans mon village natal, à La Salle. Et bon, en fait, assez rapidement, ils se sont dit que l'été, c'était pas la meilleure idée, et que le week-end de l'Ascension, c'était le moment idéal, parce que c'est les premiers beaux jours de l'année, les campings sont encore vides, les gîtes aussi, donc il y a de la place pour accueillir du public. Et effectivement, c'était une bonne idée, car du coup, ça a permis d'avoir une capacité d'accueillir tout ce public à La Salle.
Et festival qui est devenu énorme, on va le voir. Évidemment, vous êtes en lien avec La Nouvelle Dimension, ici à Florac, et le festival Vue du Québec, que vous connaissez bien. Vous serez d'ailleurs de part chez nous la semaine prochaine, il me semble. On va parler de ça dans un instant. Mais avant ça, vous avez dû faire, comme Vue du Québec, vous adapter l'année dernière, un peu comme tout le monde. Comment ça s'est passé pour vous, organiser ce festival en ces temps troubles de l'année dernière ?
Donc pour en fait, ce qui s'est passé, c'était en printemps 2020 déjà. On a pris contact avec la chaîne en ligne qui s'appelle Tink, qui fait donc c'est une chaîne documentaire en SVOD. Mmh. Et donc Tink, dont on était partenaire depuis la création, nous a proposé une plage pour le festival de La Salle, donc en ligne, en nous faisant donc deux séances, dont une du Focus Québec, qui nous a permis quand même de faire des interviews qu'on a passées donc sur nos réseaux sociaux, en parallèle des programmations des films sur la plateforme Tink. Donc ça, c'est déjà une première solution qu'on a trouvée en plein confinement du printemps 2020, où j'étais d'ailleurs à Florac, hein, au passage. puisque ma famille est de Florac. Mmh. Et donc en 2021, on se rend compte que ça va être la même et que en fait, on va pas pouvoir faire le festival comme on voulait. Et donc on arrive avec le festival de Cannes qui annonce qu'ils vont être en juillet. Donc on se dit qu'avec les connexions qu'a le festival de Cannes, a priori, s'ils ont programmé le festival en juillet, il y a des chances qu'il ait plus facilement lieu. Donc on a déplacé le festival en juillet. Mm-hmm. Donc en fait, on a respecté la tradition puisqu'on est tout le temps en même temps que Cannes depuis la création du festival. On fait une grande ombre au festival de Cannes. Mm-hmm. Donc on a fait donc début juillet. Alors là, ça a été une autre paire de manches en termes de gestion. Il a fallu vraiment prendre des mesures assez drastiques, notamment tout ce qui était protocole sanitaire, mais surtout on avait anticipé en louant un chapiteau pour pouvoir faire une salle de plus, pour pouvoir supprimer une salle au cas où il y aurait des jauges à 50%, parce que sinon en fait notre plus petite salle faisait 80, donc ça faisait une salle de 40 places, ça devenait vraiment ridicule. Donc enfin, on a dû s'adapter sur les quatre salles qu'on proposait. Donc au final, on avait une grande salle de plus, mais des problématiques majeures, parce qu'il fallait climatiser tout en juillet, vu que La Salle, c'est le Piémont Cévenol, et au mois de juillet, il fait des températures bien supérieures au mois de mai. Mmh. Donc en fait, ça a eu ces conséquences-là. Ensuite, on a subi de plein fouet les départs en vacances et le fait que en fait le public du festival n'était pas forcément totalement au rendez-vous, et que le public estival n'est pas le public du festival. Donc en fait, on a perdu quand même 40% de notre public sur cette édition 2021. Et à ça s'est ajouté la quasi-impossibilité des invités québécois de venir en France. En fait, on a eu un seul invité qui est venu, c'était Félix Rose, pour le film Les Roses, c'est tout, parce qu'en fait c'était très très complexe, et il est venu parce que c'est un ami et que ça faisait longtemps qu'on voulait faire ce rendez-vous, et qu'il a fait le pari qu'éventuellement il pourrait pas venir, et finalement ça s'est vraiment joué à 4 jours près, hein, qu'il puisse ne pas venir. Donc, finalement, on a réussi à avoir un invité québécois en 2021, ce qui nous amène à 2022 maintenant.
Et quel plaisir de retrouver un festival qui va se dérouler de la façon la plus normale et la meilleure du monde.
Voilà, donc ça, c'est le grand soulagement. On a une édition quasi normale, je vais dire, parce qu'il y a quand même encore une petite surprise supplémentaire, c'est que notre navire amiral, la plus grande salle du festival, est en chantier cette année, donc on a dû la remplacer au pied levé par une salle de substitution, mais on a quand même 4 salles de projection, on a quand même donc 66 séances sur la salle. Donc il y a quand même l'offre habituelle, j'ai envie de dire, de films. Alors un peu moins d'invités quand même qu'une édition normale. C'est-à-dire qu'on, au lieu d'avoir 70 invités, on va en avoir que 50. Mais je pense que le public sera relativement content d'avoir déjà toute cette masse d'invités à sa disposition.
C'est sûr. Alors vous, votre rôle dans l'équipe du festival et de la sauce, c'est coordinateur réseau. Ça veut dire quoi ?
Alors en fait, c'est que sur le festival lui-même, ça n'a aucun lien. Le réseau, c'est le réseau d'Auxeven qui a été créé en 2015 progressivement, mais surtout à partir de 2017 avec la création de la cinémathèque du documentaire. On associe autour de nous des festivals comme Vue du Québec ou Itinérance, mais aussi des structures, des associatives, des cinémas en dur ou itinérants. On associe aussi des collectivités, hein, par exemple la mairie du Pont de Montvert. Enfin, y a vraiment beaucoup de d'axes possibles. Il y a aussi des scolaires, donc des lycées, des collèges, universités aussi. Et donc tout ça forme un réseau d'une trentaine d'acteurs dans lesquels on essaye de créer des synergies pour faire des circulations de films et d'invités tout au long de l'année, et notamment bien sûr des films québécois, ce qui m'amène à ma fonction principale au sein du festival, qui est d'animer ce Focus Québec, qui représente quand même 20% de la programmation du festival. Qui en fait le plus gros festival de documentaires québécois de fait. Voilà.
Et justement, alors, puisque votre festival commence officiellement le mercredi 25 mai à Florac, on l'a abordé, hein, dans la continuité du festival Vue du Québec, on part direction le Saint-Laurent, et d'ailleurs vous serez présent et le film ce sera Bois Bouscache, c'est ça ?
Tout à fait, donc, je viendrai avec Jean-Claude Coulbois qui était déjà venu à la salle il y a quelques années. Et cette fois-ci, donc, il revient pour ce film Bois Bouscache, qui est quand même un film assez extraordinaire. Je peux en parler un petit peu, mais ce film, en fait, va résonner particulièrement fort dans les Cévennes, puisque il pose plusieurs questions, en fait, la question de quand le territoire est un territoire ouvert et public, puisque là, on parle d'une forêt, hein, la forêt Bois Bouscache. Finalement, qui peut en jouir ? Et là, en l'occurrence, il y a la question, donc. Québec des autochtones, donc les Premières Nations. Y a la question des chasseurs, un sujet ô combien lié à ce qui se passe avec les Cévennes, entre la gestion côté parc et tourisme d'un côté, et puis finalement chasse de l'autre. Il faut le répartir entre les promeneurs et les chasseurs. La question aussi de l'éolien qui s'invite dans ce parc, puisque en fait, au nom de l'écologie, on installe un parc éolien dans le Bois Bouscache, mais en fait, est-ce que c'est pour le bien commun ou pas, au final, ça sera l'enjeu du film, je vais pas tout dévoiler. Donc il y a plein de choses qui se recroisent, qui sont quand même assez proches des problématiques qu'on rencontre ici dans les Cévennes avec des enjeux. Enfin, chaque fois qu'on fait une action politique, ça, c'est pas sans conséquence. Tout acte a une conséquence. Et voilà. Donc c'est ce qui est fait vraiment la force de ce film. C'est une avant-première française. J'ai envie de dire même Florac aura la primeur de la primeur de la primeur, puisque ce sera le mardi 24 à la Genette Verte. Donc ça sera le privilège d'être la première séance du film et du festival quelque part. Voilà.
Avec évidemment en partenariat la nouvelle dimension. Comment est-ce qu'on explique, au-delà du jumelage entre le parc national des Cévennes et le parc national du Saguenay, cet attrait pour le cinéma au sens large, genre documentaire inclus évidemment, comment on peut expliquer l'intérêt pour le cinéma québécois ici dans la région ?
Je pense que c'est d'abord lié à des programmateurs fous. initialement, puisque bon, c'est aussi bien Guillaume que moi, on a vraiment voulu développer ça. Donc ça, c'est certain que ça part de là quand même. Hein. On va pas inventer des choses qui n'existent pas au départ. Ensuite, c'est vrai qu'il y a, après, il y a la chance que ça ait marché, qu'il y ait eu un écho dans le public, que les gens se sont sentis concernés. Et là, je pense que pour le coup, ce lien-là, il est très intéressant. Ça remonte, pour remonter vraiment au cinéma direct des années 60, parce qu'il y avait déjà des liens entre les pionniers de ce cinéma côté français et canadien qui se sont retrouvés entre Michel Brault, Jean Rouge, par exemple, qui nous amène jusque dans les Cévennes d'ailleurs, hein, puisque il y a Les Inconnus de la Terre de Ruspoli qui a été donc filmé avec Michel Brault, donc il y a ce genre de liens qui sont donc des liens historiques. Et à côté de ça, je pense qu'il y a aussi une histoire commune, même si elle est très différente. C'est-à-dire qu'on a les Cévennes, en fait, on sur un territoire un petit peu à part, lié notamment au protestantisme et ce côté un petit peu terre, un peu refuge. Et le Québec, en fait, a été pendant longtemps, alors côté catholique cette fois-ci, mais une sorte d'îlot francophone en Amérique du Nord, qui était un peu à contre-courant de ce qui se faisait autour. Donc il y a un peu ce côté à part qui, je pense, rapproche dans le... Après, même si les histoires sont pas comparables, hein, mais voilà, je pense que ça fait peut-être écho. Et ensuite, il y a aussi le fait que les films québécois sont, c'est du cinéma qui est à la fois tout aussi un cinéma social qu'un cinéma d'émotion, avec une certaine poésie qui est quand même, on retrouve finalement une culture commune avec une certaine approche du cinéma qu'a le public français déjà. Donc je pense que ce lien transatlantique, il existe déjà. Enfin, on voit avec David Dolan par exemple.
Ouais.
Il existe déjà et il est sublimé par le fait que quand on présente beaucoup de productions québécoises, on se rend compte que ça fait quand même beaucoup écho dans ce public cévenol. Voilà.
Avec un jeu de mots assez sympa puisque c'est Focus Québec pour votre festival La Fraîche Connexion. C'est bien ça.
Oui, alors on s'est amusé cette année. On a décidé que, au bout de tant d'années du Focus, il fallait peut-être, pour la 8e année, lui donner un petit coup de rafraîchissement. Alors on s'est dit, allez, qu'est-ce qui fonctionnerait. Alors l'idée datait de 2019 avec Richard Brouillette, de la dernière édition où il a été là en présentiel. Et effectivement, on avait dit, tiens, on pourrait faire un jeu de mots avec La Fraîche Connexion. Voilà, pour rester en français dans le texte. Ouais, voilà.
C'est sûr, c'est important pour eux.
Oui.
Alors évidemment, on n'aurait pas assez de temps pour parler et dire tous les invités qui seront présents au festival, mais peut-être quelques noms d'invités qui seront présents.
Déjà, on a un invité, on va dire, de marque, puisqu'on a Pedro Costa qui vient au festival le vendredi 27. Pour présenter donc deux de ses films. Donc ça, c'est un des rendez-vous. Ensuite, on a aussi, quand même, sur le côté québécois, il y a quand même beaucoup d'invités présents. Donc Jean-Claude Coulois, on l'a dit. Jenny Cartwright, qui présentera aussi en avant-première son film sur le quartier Parc Extension de Montréal, qui s'appelle « Je me souviens d'un temps où personne ne joguait dans ce quartier ». Le titre est très long, en effet. Et Emmanuel Lichat pour « Zoroquin », qui se passe en Haïti. Hélène Mani pour « Je pleure dans ma tête », qui est un film sur les classes, l'accueil des réfugiés, en fait, dans les classes au Québec. Et ensuite, on a des personnes, différentes personnalités, notamment Nathalie Cloutier de l'Office national du film, ou aussi sur Susanna Fernandez, qui représentera le Festival des rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui est partenaire du festival. Je tiens à le préciser aussi.
Cette année, et c'est important, l'altérité est au cœur de votre festival, puisque la première question que vous posez, c'est l'autre, c'est qui ?
Tout à fait, c'était l'enjeu. Et d'ailleurs, on a fait un visuel atypique aussi, puisque c'est un visuel finalement en deux volets. C'est un diptyque. Il y a donc, comme d'habitude sur notre affiche, deux personnages qui sont des gens de la salle. Mais là, on les fait se confronter ou se regarder. Ça dépend comment on voit le rapport à l'autre, justement. Parce que on se disait, parce qu'en fait, on fait le thème, on le fait à l'automne en général, au moment des réflexions sur l'édition suivante. Donc on était bien avant les présidentielles, mais on sentait déjà quand même que on était dans une période post-Covid qui commençait à sentir pas très bon sur la relation à l'autre. On ne savait pas encore qu'il y aurait la guerre en Ukraine. Mais voilà, ça nous a fait immédiatement sens de retourner notre festival 2022 sur cette thématique-là. Et finalement, ça tape vraiment dans l'actualité, malheureusement, j'ai envie de dire, mais entre les contenus de ce qu'il y a eu pendant ces présidentielles et la situation géopolitique mondiale. Finalement, effectivement, la question du rapport à l'autre est quand même particulièrement complexe et conflictuelle souvent. Donc on essaie de prendre cette approche sous un angle très particulier, puisque cette année, la table ronde annuelle qui reprend le thème du festival ne sera pas une table ronde normale, puisque ce sera une séance publique de Radio Grille Ouverte animée par Yves de Fago, avec donc le public qui pourra intervenir dans l'émission, en présence donc de plusieurs invités, dont je précise quand même encore deux autres invités de marque, puisqu'on a quand même Régis Sauder, réalisateur de En Nous, qui est l'ancien président de l'ACID, et Ousmane Samasekou, réalisateur du Dernier Refuge, qui lui vient du Mali, donc voilà. Très content d'avoir, en plus de nos Québécois, ce panel aussi d'invités divers et variés.
C'est voilà. Clair. Précisons aussi que c'est pas que du documentaire pendant 4 jours, c'est toute la ville de la salle qui s'anime. Il se passe plein de choses, hein. Il y aura des concerts et des expos, c'est ça?
C'est ça, voilà, il y a un concert par jour en fait. Il y a même du documentaire sonore mercredi soir, en plein air. La Belle Étoile. Il y a effectivement une expo dans le village et surtout c'est aussi un espace d'échange et de rencontre, donc il y a beaucoup de stands aussi de gens qui viennent, des artisans par exemple, qui viennent s'ajouter à ça, et tout un maillage associatif qu'il faut souligner quand même aussi de la Salois qui par exemple nous aide dans des tâches comme par exemple la restauration pour le public et les invités. Donc c'est beaucoup de gens qui se mobilisent, on est à plus d'une centaine de personnes mobilisées sur ce festival. Donc c'est une grosse logistique.
C'est énorme, effectivement. Et puis pour des prix tout à fait abordables, puisque le forfait 10 séances, qui sont, précisons-le, non nominatifs, donc partageables, c'est 55 euros, soit 5,50 € la séance, c'est ça?
Voilà, on n'a pas voulu toucher à ce prix-là. En période d'inflation, on a dit que ça, on ne touchait pas. Voilà, on a augmenté le prix unitaire, il est passé à 7 euros, ce qui s'aligne à peu près sur les autres festivals. Mais on n'a pas touché au carnet de 10, qui est un peu l'objet le plus chéri de notre public. Donc voilà, en ces temps d'inflation, on a décidé que non, on ne suivrait pas le mouvement.
Les rencontres, elles, sont libres et gratuites dans la limite des places disponibles. Vous avez un super site, vraiment, où on retrouve toutes les infos, c'est bien fait, c'est doc-seven.org. Ce festival à la salle se passe du 25 au 28 mai. Je mets le lien sur notre site dans un instant. Et à Florac, le film Bois Bouscache, ce sera le mardi à la Genette Verte. En votre présence, merci beaucoup Guillaume.
Merci beaucoup. Et regardez aussi la bande-annonce, si vous verrez, elle est super.
Avec plaisir, je la mets sur notre site aussi. Très bon festival à vous et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci Corto.
Voilà, de rien,
je voulais te surprendre. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale avec Anne Montagard du collectif Le Grand Chahut pour des beaux événements à venir à Saint-Germain-de-Calberte fin mai, début juin. Voilà, n'hésitez pas à aller aller répondre à l'enquête lancée par les pompiers. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve donc lundi. On se quitte avec Miles Davis, Milestones, l'inventeur du bebop, de la note, de la blue note, c'est beau. Miles Davis, l'un des plus grands trompettistes de tous les temps. Passez une excellente journée, à lundi, ciao.